Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Une pluie de coups, de mensonges et de soubresauts politiques. Les quatre policiers suspendus sont convoqués aujourd'hui en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Emmanuel Macron a dû reprendre la main sur ce dossier. Il se dit ce matin très choqué. Mais la réécriture de l'article 24 par une commission indépendante ne passe pas dans la majorité. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, fait connaître son opposition. Dossier dans un instant. Et avec Guillaume Bié et, avec Jean-Rémy Baudeau. Dans l'actualité encore, un nouveau-né atteint de Covid en Haute-Savoie. Il a failli ne pas survivre. Les universités qui réclament le retour des étudiants dans les facs avant le mois de février, comme c'est prévu. La bataille du ski en Europe, Suisse et Autriche veulent maintenir leur station pour Noël et les grands festivals de musique qui préparent leur reprise pour le printemps prochain. Invité d'Europe Midi, le neurologue et chercheur en neurosciences Lionel Nakache, qui nous explique dans son dernier livre que notre cerveau fonctionne comme une salle de cinéma.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des images glaçantes et une atmosphère bouillante dans la majorité avec désormais des députés qui se sentent humiliés par l'annonce de la réécriture de l'article 24. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, exprime son émotion et son opposition. On va y venir. Mais d'abord, Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron, qui face au désordre, s'est senti obligé d'intervenir. La présidence vient de confirmer ce que vous nous disiez dès ce matin. Le chef de l'État a réagi au passage à tabac d'un homme noir par des policiers.
Oui Patrick, on vous en parlait dès ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron se dit très choqué par le passage à tabac de ce producteur, cet homme noir, par des policiers. Des propos qu'il a en fait tenus dès hier devant Gérald Darmanin lors d'un entretien à l'Élysée. Selon nos informations, le président avait alors demandé à son ministre de l'Intérieur des sanctions très claires contre les policiers. C'est une forme de rappel à l'ordre, car plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà demandé des explications à Darmanin sur la gestion de la dispersion du camp de migrants à République.
Et sur l'article 24 de la loi sécurité qui encadre la diffusion d'images de policiers, Jean Castex a voulu calmer le jeu hier soir en nommant une commission indépendante chargée de réécrire cet article. En réalité, Jean-Rémy, il a mis le feu à la majorité.
Oui, une commission pour tenter de réécrire un texte déjà lui-même réécrit la semaine dernière par le Premier ministre, alors même qu'une partie de la majorité souhaite supprimer cet article. Ça ressemble quand même beaucoup à un enterrement de première classe. Il faut dire que la pression est de plus en plus forte depuis l'annonce hier soir de cette commission. Vous en parliez, de nombreux parlementaires LREM ont publiquement fustigé l'idée. Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée, proche parmi les proches du président, il a fait part de sa vive émotion, affirmant, je cite, qu'une telle commission constituerait une atteinte aux missions du Parlement. Il y aura une réunion de crise lundi entre Darmanin et les députés marcheur de la commission des lois, mais on imagine que ça ne changera pas grand-chose. Au sein même du gouvernement, la séquence commence à créer des fractures. La macronie se déchire. Reste à savoir combien de temps Emmanuel Macron pourra réellement rester silencieux.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Dans ce dossier de Michel Zecler, cet homme roué de coups dans l'entrée d'un studio de musique du 17e arrondissement de Paris samedi dernier, quatre policiers ont été suspendus et Gérald Darmanin a demandé leur révocation. Guillaume Bié, ils n'ont pas seulement été violents sans raison, ils ont aussi menti, d'où les poursuites pour faux en écriture publique.
Oui, c'est le soupçon parce que le procès verbal dans lequel l'un des policiers relate l'intervention ne correspond manifestement pas à ce qu'il s'est passé, du moins à ce que l'on voit sur la vidéo. À aucun moment le policier qui rédige ce PV ne fait état des nombreux coups portés par ses collègues et lui. Tout juste évoque-t-il à deux reprises des coups de matraque télescopique dont l'individu parvient à se saisir, peut-on lire, ce que l'on ne voit pas sur les images. Faux en écriture publique, c'est un crime quand il est commis par un policier, c'est passible d'une cour d'assises. En revanche, dans ce PV, il est fait mention de la grenade lacrymogène lancée dans le hall par un policier non identifié, qui l'a été depuis. Un geste qui n'est pas formellement interdit, mais très fortement déconseillé en intervention. Ce quatrième policier, donc lui aussi suspendu à titre conservatoire.
Si la vidéo n'avait pas été tournée et diffusée, Michel Zecler aurait sûrement été jugé en comparution immédiate pour voie de fait sur des policiers. Il a tout de même passé 48 heures au commissariat, ce qui veut dire que sa garde à vue a été prolongée par un magistrat du parquet.
Eh oui, puisque toute prolongation de garde à vue doit être validée par un magistrat, en l'occurrence le procureur, qui doit se faire présenter le suspect physiquement ou par visioconférence. Dans la réalité, à Paris, c'est très rarement le cas, vu le nombre de gardes à vue quotidiennes. Il y en avait une quarantaine samedi dernier. Mais légalement, que le suspect soit présenté ou pas au procureur, la prolongation de sa garde à vue doit être écrite et motivée, c'est obligatoire dans la réalité. Ça se traduit par un échange de fax entre le commissariat et le parquet, sur la base de ce qu'indique l'enquêteur. Voilà pourquoi il a fait 48 heures de garde à vue sans avoir été vu par un magistrat.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité encore, la communauté universitaire qui s'impatiente. Emmanuel Macron et sa ministre Frédérique Vidal ont annoncé une réouverture des facultés à taux plein début février seulement. Or, Virginie Riva, les étudiants, les profs, les présidents d'université trouvent qu'il y a urgence.
Oui, détresse psychologique, risque de décrochage massif et précarité économique. Voilà les trois grandes difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants. Sur les enseignements, les étudiants sont perdus et principalement les premières années qui ne comprennent pas, nous disent les professeurs, le fonctionnement du travail universitaire. Des étudiants de première année qui sont pour la plupart totalement désocialisés depuis mars dernier. L'isolement et les problèmes économiques entraînent aussi chez beaucoup de la dépression. Les recours à une aide psychologique ont triplé selon les remontées des services de santé sur les campus. Un abattement qui touche même les étudiants qui s'en sortent plutôt bien, comme Malena, en master à Sciences Po Strasbourg, au micro d'Arthur Elmbaché.
Je me sens pas bien, je me sens comme dans un bocal. Et ce qui est difficile, c'est que moi j'ai l'impression de pas faire mon master parce que j'ai du mal à suivre. J'ai toujours été une bonne élève et là je pense que ça fait deux semaines que j'ai pas pris de notes dans un cours, quoi. Ouais, je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie, donc... Oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Voilà pourquoi les présidents d'université demandent un retour en présentiel dès la mi-janvier. Pourquoi la mi-janvier ? Parce que c'est la date de passage au deuxième semestre. Ils proposent soit de privilégier le retour à la fac dès première année, soit un retour à 50% pour tous. Mais impossible, selon eux, d'attendre le 20 janvier, comme le souhaite le gouvernement, pour faire un point sur la situation sanitaire.
Virginie Riva.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite, un nouveau-né atteint de Covid en Haute-Savoie et les prix de l'immobilier en reflux pour la première fois en région parisienne depuis plus de 10 ans.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La pression continue de baisser à l'hôpital où le nombre de malades est descendu à moins de 30 000 avec 4 000 patients en réanimation et encore 340 morts hier. À Rumilly, en Haute-Savoie, un nouveau-né atteint de Covid. Non seulement il a été testé positif 3 jours après sa naissance, mais il a développé des symptômes. Il est maintenant, comme sa maman, tiré d'affaire, Jean-Luc Boujon.
Oui, mais il y a une grande période d'incertitude autour du petit Dario, né le 21 octobre dernier à Annecy, avec des symptômes inquiétants, explique Joy, sa jeune maman de 24 ans.
En fait, il est né, il avait les yeux qui partaient en coucher de soleil, c'est-à-dire que les yeux partaient vers le bas. Et le lendemain, il a fait 42 fièvres et ils ont dû faire un prélèvement urinaire, de sel, ponction lombaire et prélèvement sanguin et le test PCR du Covid. Et en fait, tout a été négatif, sauf le test PCR était positif, donc il a bien été positif au Covid à 3 jours de vie.
La maman aussi est positive, elle est persuadée que c'est elle qui a transmis le virus à son petit.
J'ai pas attrapé à la clinique, sinon il y aurait eu que moi et mon fils de malade, vous voyez. Il y aurait pas eu ma maman, mes grands-parents, mon frère. Donc, je pense que tout le monde l'a attrapé à la maison et le bébé a été positif parce que j'étais enceinte.
S'ensuit des moments difficiles à l'hôpital d'Annecy où la maman est seule avec son bébé.
Le fait d'être isolée toute seule dans une chambre avec l'équipe médicale qui, du coup, à cause du Covid, venait me voir que en cas de force majeure, donc on posait mes plateaux repas devant la porte, ils rentraient, ils étaient déguisés en cosmonaute. Enfin, j'avais aucun contact avec l'extérieur, j'avais pas le droit d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air. Pour moi, j'ai vécu ça comme une prison. Et puis le problème, c'est que les médecins n'était jamais rassurant, donc c'est pas de leur faute. Hein. C'est que du coup, c'était tellement inédit comme cas, c'était le premier nouveau-né. Donc pour eux, ils y allaient à tâtons. Ils me disent que ça peut se dégrader du jour au lendemain, comme ça peut s'améliorer du jour au lendemain. Ils n'avaient pas assez de recul et pas assez d'antécédents. C'est ça qui m'a manqué aussi, c'est ce côté rassurant de l'équipe, quoi.
Mais peu à peu, la fièvre baisse et le bébé continue de bien s'alimenter. Il se remet donc progressivement. Et aujourd'hui, il est rentré à la maison. Il va bien. Des examens ont montré qu'il n'avait aucune séquelle neurologique. Mais l'épisode a quand même été très dur à vivre pour sa maman.
Jean-Luc Boujon à Lyon. Effet indirect et heureux de la crise sanitaire, les prix des appartements en région parisienne sont en train de repartir à la baisse pour la première fois depuis quoi, une dizaine d'années, Élise Enjean, hein ?
Absolument, une baisse de 0,8% dans toute l'Île-de-France d'octobre à janvier 2021, un peu plus marquée dans Paris intramuros, moins 1,2%, ce qui veut dire que le prix au mètre carré n'atteindra pas comme prévu les 11 000 euros, on sera plutôt autour des 10 700. Alors comment expliquer cette baisse ou plutôt ce ralentissement de la hausse des prix en Île-de-France? Eh bien, selon les notaires, c'est la conséquence du premier confinement à cause duquel les délais de vente se sont allongés, ce qui a permis des négociations plus serrées sur les prix. Mais attention, cette baisse ne concerne que les appartements, vous le disiez. Côté maison, les prix sont à la hausse en Île-de-France sur l'année, plus 9,5% en petite couronne, selon les dernières estimations des notaires. Et pour cause, la demande est plus forte depuis le premier confinement.
Merci Élise Dangean. Pour les stations de ski à Noël, l'Europe continue de s'en mêler les spatules. Lille, station fermée en Allemagne, remonte-pente arrêtée en France. Deux pays qui aimeraient que toute l'Europe décrète une interdiction générale. Mais l'Autriche et la Suisse ne veulent pas sacrifier leur tourisme et ont déjà lancé leur saison tout chousse. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une chance de trouver une position commune ?
Eh bien, ça ne sera pas simple, Patrick. Hein. Soyons clairs, il n'y a pas de directive européenne sur les tire-fesses. Les sports d'hiver, ce n'est donc pas une compétence de Bruxelles. Depuis hier, la Commission européenne répète en boucle que ce sont les États qui doivent gérer ça. Mais elle ajoute aussi qu'il faut rester très vigilant. Personne n'a oublié comme des skieurs de toute l'Europe ont été contaminés dans la station autrichienne d'Ischgl lors de la première vague. Donc, en coulisses, ça s'active pour essayer de convaincre l'Autriche et la Suisse, qui n'est pas dans l'Union, mais quand même au cœur de l'Europe. Jean Castex vient même de parler à la présidente suisse. C'est un travail de conviction, on fait valoir les risques liés à la pratique du ski, explique un diplomate. Cette méthode française et allemande de pression, ce n'est pas possible, réplique une source suisse qui ajoute « ils n'ont qu'à interdire à leurs ressortissants de bouger ». À ce stade, ça semble effectivement la piste la plus réaliste, mettre en place des quarantaines dissuasives pour ceux qui reviendraient des autres nations alpines. Ça, c'est possible, dit Bruxelles. Elles sont déjà en place, d'ailleurs, en Allemagne, mais pas en France.
Bon, merci Isabelle Horry. À Bruxelles, si on n'a pas de ski, on aura les festivals qui ont dû tout annuler cette année et qui comptent bien accueillir à nouveau leur public dans les mois à venir, à partir du printemps et plus sûrement en été. Les patrons de festivals le font savoir dans une tribune commune. Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort.
Pour l'instant, rien ne nous interdit d'y croire. D'autre part, il y a des avancées quand même technologiques et médicales qui sont très sérieuses. Donc bien entendu, tout ça nous laisse à penser qu'on peut imaginer nos scénarios, en tout cas dès à présent. De nombreux festivals, dont les Eurockéennes, ont déjà signé des partenariats. On a signé aussi des nouveaux artistes. Bref, toute la machinerie doit se mettre en branle dès le mois de décembre. Dans quelques jours, début de la semaine prochaine, nous allons annoncer l'ensemble de la programmation que l'on annonce d'habitude en avril, mais là nous avons travaillé très tôt. Ça va être le cas aussi de Musilac, je crois que ça va être le cas aussi du festival Beauregard. Nous sommes nombreux en tout cas à être, j'allais dire, dans les starting blocks pour annoncer tous les artistes qui eux aussi nous ont aussi confirmé leur venue.
Propos recueillis par Angèle Châtelier. Le temps à Nice, elle a dit attention aux fortes pluies dans le sud.
Oui, avec actuellement, Patrick, trois départements en vigilance orange. Les Pyrénées-Orientales, les deux départements Corse sont concernés. Alors cet après-midi, sur le Roussillon, l'Aude, l'Hérault et la Corse, il va pleuvoir. Le ciel est très couvert. Au fil des heures, ces pluies vont s'intensifier. Prudence dans ces régions. Cet épisode pluvieux va se poursuivre ce soir, cette nuit et demain. On va avoir un week-end agité dans le sud. Et puis, il vient se mêler à ces fortes pluies, le vent d'autant souffle, le vent d'Est souffle sur le Var également. Prudence de la Bretagne au Hauts-de-France, sur le quart nord-ouest, nous avons une petite perturbation qui va vous apporter quelques petites gouttes. Partout ailleurs, c'est un temps sec et assez ensoleillé, les températures 6 à 20 degrés, grande amplitude, 6 à Strasbourg et 20 pour Ajaccio.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Notre invité dans un instant, le neurologue Lionel Nakache, qui nous explique comment notre cerveau se fait du cinéma.